Ça ne veut pas dire toutes les personnes qui arrivent illégalement seront envoyées au Rwanda. Une partie va être envoyée au Rwanda. Pour l'instant, le gouvernement a mis de côté 350 personnes, peut-être pour le premier vol, mais on n'aura pas une majorité de demandeurs d'asile qui seront envoyés au Rwanda. Mais pour ceux qui iront au Rwanda, c'est là qu'ils déposeront leur demande d'asile, c'est là que leur demande d'asile sera étudiée et leur sera accordée ou pas, et ils resteront au Rwanda. Aucun ne reviendra au Royaume-Uni, même bien sûr ceux dont la demande sera rejetée. Eux pourront demander un autre titre de séjour au Rwanda ou bien faire une demande d'asile dans un autre pays.
Mais, OK, mais expliquez aux gens qui nous écoutent, Marie Billon, quel est le lien entre le Royaume-Uni et le Rwanda? Pourquoi cette entente entre les Britanniques et le Rwanda en particulier?
Alors, la question est, enfin, la réponse est un petit peu bête dans un sens, pas la question du tout, mais la réponse, c'est juste que c'est le Rwanda, le seul pays qui a accepté les avances du Royaume-Uni là-dessus. Le journal The Times a fait un article la semaine dernière il avait eu accès à des documents fuités. Une bonne dizaine de pays a été contacté par le Royaume-Uni. Certains ont carrément dit non, c'est le cas notamment du Maroc. Certains sont encore en discussion avec le Royaume-Uni, c'est le cas je crois de la Côte d'Ivoire. Mais le Rwanda est le seul pays qui a accepté les avances du Royaume-Uni. Alors il fallait que ces pays répondent à certains critères. Donc tous les pays du monde n'ont pas été approchés. Mais le Rwanda fait partie du Commonwealth, même si ça n'est pas un ancien pays de l'Empire. Donc il y a un lien de toute façon entre le Rwanda et Londres. Et le Rwanda est un pays qui veut se développer. Et c'est un deal qui est très lucratif, un accord qui est très lucratif pour le Rwanda, puisqu'il y a déjà plus de 300 millions de livres qui ont été versés au Rwanda. Il devrait y en avoir encore plusieurs millions qui vont être versés au Rwanda. Et s'il y a plus de 300 réfugiés qui sont envoyés au Rwanda, eh bien le Royaume-Uni devra payer une somme de 120 millions, juste parce que la barre des 300, seulement 300, est dépassée. Donc c'est un accord qui est très lucratif pour le Rwanda, qui veut s'en servir comme fonds de développement, en gros.
Est-ce que toute personne qui débarque de façon irrégulière au Royaume-Uni est envoyée au Rwanda, ou il y en a, sous certaines conditions, qui peuvent rester au Royaume-Uni?
Alors, comme je le disais, donc toutes les personnes qui arrivent illégalement au Royaume-Uni ne seront pas envoyées au Rwanda. C'est uniquement une poignée qui sera envoyée au Rwanda. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de maximum ou de minimum, c'est le plus possible. Mais il faut déjà, on sait que ce sera pas des enfants, pas des mineurs. A priori, il n'y aura pas de famille non plus. Pas sûr qu'il y ait des femmes aussi. Donc, on s'attend surtout à ce que ce soit des hommes seuls, jeunes et donc célibataires qui soient envoyés là-bas. Donc déjà, même si c'est effectivement la majorité des personnes qui arrivent ici clandestinement, ça ne veut pas dire tout le monde. Et puis là, dans les 350 que le gouvernement a mis de côté, en gros, pour les premiers vols, ce sont les personnes dont on sait qu'elles vont certainement déposer un recours pour ne pas être envoyées au Rwanda, mais le gouvernement pense que leur recours sera refusé. Donc, pour s'éviter des humiliations et des avions bloqués, comme on a déjà vu la première fois que cette loi avait été votée, le Royaume-Uni fait bien attention à choisir des candidats qui devraient ne pas réussir à remettre en cause leur expulsion vers le Rwanda. Et la loi, telle qu'elle a été écrite et votée hier, elle est très restrictive dans les possibilités de recours. C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'une personne puisse déposer un recours et qu'il soit potentiellement couronné de succès, il faut que ce soit la personne en tant qu'individu, elle personnellement, qui pourrait souffrir d'être envoyée au Rwanda. Ça ne peut pas être par principe, ça doit être, chaque personne doit prouver que pour son cas personnel, c'est un problème. Et ce serait quelque chose de assez compliqué, déjà de très mangeur de temps pour les cours de justice. Et puis, ce serait aussi quelque chose de très compliqué pour chaque personne à faire valoir devant les cours de justice. Il faut des avocats, il faut des moyens, etc. Et surtout, une personne qui reçoit son avis d'expulsion a 7 jours pour faire appel. Ça n'est pas beaucoup pour préparer justement un dossier aussi précis.
Racontez-nous à quel point c'est une question politiquement chargée que celle des migrants, les sans-papiers qui débarquent au Royaume-Uni.
C'est vraiment le cheval de bataille de Rishi Sunak en ce moment, qui est très très bas dans les sondages. Donc Rishi Sunak, le premier ministre du Parti conservateur, très bas dans les sondages, assez contesté même au sein de son propre parti. Et avec ce texte de loi, il veut convaincre la droite de la droite du parti qu'il a encore de l'autorité, qu'il a encore des idées, même si ce projet de loi n'était pas le sien. Il en a hérité en même temps qu'il a hérité de Downing Street, mais il en a clairement fait son cheval de bataille. Donc, si aucun vol ne décolle, il aura deux solutions. Soit, effectivement, admettre l'échec, mais on ne s'attend pas à ça de la part d'un politique. Soit de dire, eh ben, vous voyez, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait pour répondre à cette préoccupation des Britanniques, comme ils disent, et diminuer les traversées, puisque c'est le but ultime, et renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Mais selon qui va bloquer, les cours de justice, les associations, ou bien d'autres politiques, par exemple, eh bien, on pourra trouver une raison pour laquelle ce projet n'a pas pu avoir lieu. Ça ne sera pas la faute de Rishi Sunak en ce moment. Donc, ça, c'est une stratégie politique pour finalement avoir l'air de dire, alors ça y est, on l'a passé cette loi, mais si ça ne marche pas, c'est pas notre faute. Et la gauche, qui a finalement, à force, laissé passer cette loi, l'a votée hier, elle s'attend à ce que le gouvernement se prenne les pieds dans son propre tapis, n'arrive pas à envoyer des migrants au Rwanda. Et si, comme l'indiquent les sondages, la gauche arrive au pouvoir d'ici quelques mois, les élections qui ont d'avoir lieu avant janvier prochain, eh bien, la gauche a déjà dit que c'est une loi qu'ils vont annuler et qu'eux ne feront aucun envoi d'expulsion de migrants illégaux vers le Rwanda.
Vraiment, vraiment intéressant. C'est très intriguant, cette mesure. Merci, Marie, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Au revoir. C'était Marie Billon, elle est correspondante à Londres pour RTL. Et c'est une mesure là qui est, je dois le dire, dénoncé un peu partout. Amnesty International, par exemple, des églises, etc. Évidemment, des groupes de défense des migrants trouvent que c'est cruel, mais bon, pour l'instant, ça passe le test des tribunaux. Il y a une première version du projet de loi là qui avait été torpillée en cours, mais là, il semble que ça fonctionne. Donc, intriguant, on prend des migrants et on va en envoyer comme ça au Rwanda. 15:37, merci d'être là. Écrivez-moi, 985.
Vous connaissez quelqu'un qui s'est illustré dans un domaine sportif? Contactez Sport à commercial cfxrimouski.com. Vous faites partie d'une organisation sportive? Votre équipe participe à un tournoi? Contactez-nous! CFXFM 93, la référence pour tout ce qui se passe dans la région. Le beau temps approche à grands pas. Et chez Batterie Expert, nous sommes prêts à vous faire vivre une saison inoubliable. Avec une vaste sélection de vélos, quadriporteurs et autres petits véhicules électriques, nous vous invitons à découvrir l'aventure qui vous attend. Nos experts sont là pour prendre soin de vos besoins en entretien et réparation. Sur place. Pour l'entretien de votre terrain, nous vous proposons les produits EGO, tondeuses, coupe-herbes, souffleurs à feuilles et autres accessoires. De plus, ne manquez pas notre collection d'accessoires solaires. Batterie Expert, 145 montées industrielles et commerciales, Rimouski.
FM 93 en parle. FM 93. Nouvelle régionale.
Nouvelles du 23 avril 2024. Le maire Guy Caron se fait rassurant concernant l'implantation de la multinationale Costco à Rimouski. L'entreprise et la ville doivent passer chez le notaire cette semaine afin de conclure la vente du terrain promis à Costco, situé à l'angle du prolongement du boulevard puis de la montée industrielle. La transaction est évaluée à un peu plus de 3,4 millions de dollars. Par ailleurs, la ville doit investir 4,9 millions de dollars pour des travaux d'élargissement de la montée industrielle et pour le prolongement du boulevard Turbuis. Quoi qu'il en soit, M. Caron s'est montré convaincu qu'il n'y aura pas de problème ce matin. Le porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Joël Arsenault, dépose un projet de loi pour contrer le gaspillage alimentaire et d'autres biens aujourd'hui. M. Arsenault rappelle qu'il y a un an, il a déposé un projet de loi similaire qui incluait aussi le droit à la réparation des biens. Le gouvernement a choisi de reprendre cette notion dans une loi sur l'obsolescence programmée, adoptée en octobre. Cependant, cette loi n'a pas ciblé le gaspillage, ce qui fait que le PQ revient à la charge. Celui-ci fait valoir que plusieurs juridictions dans le monde ont déjà agi pour contrer le gaspillage, autant alimentaire que pour d'autres biens. Le syndicat de l'enseignement de la région de la Métis dénonce les agissements du Centre de services scolaires des Monts et Marées envers son personnel enseignant en statut précaire. Le CSS a pris la décision de réaffecter du personnel enseignant sans lui demander son consentement ou avoir fait l'étude de ses capacités. Le syndicat a déposé un grief pour contester la décision de l'employeur de réaffecter du personnel enseignant dans des matières dont il ne détenait pas la capacité d'enseigner. En mars dernier, l'arbitre Alain Turcotte a rendu une décision favorable au syndicat. Malgré tout, le CSS a décidé de poursuivre sa démarche et pris la décision d'aller en appel. Et enfin, Investissement Québec accorde des aides financières de 1,5 million de dollars à deux entreprises de Rimouski, la ferblanterie de Rimouski et Deux-Océans, pour le projet d'agrandissement et de développement. La députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, en a fait l'annonce hier. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFX FM 93. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Est-ce que la lecture peut changer, guérir, voire même sauver des vies? Ici Claudia Larochelle, en compagnie de mes invités de tous les horizons, je vous invite à explorer comment les livres nous font grandir comme personnes et évoluer comme société. Lire pour vivre, c'est une quête documentaire très personnelle sur nos enjeux sociaux en littératie et surtout sur l'extraordinaire pouvoir des livres et de la lecture.
C'est la voix de notre amie Claudia Larochelle, autrice, chroniqueuse spécialisée en littérature.
Qui et a voyageuse. Toujours,
et voyageuse, oui. Qui a toujours eu, Catherine, cette passion d'initier les jeunes à la lecture. Bonjour, Claudia.
Bonjour. Claudia, ton documentaire oui. « Lire pour vivre » est présenté ce soir sur Savoir Média à 18h. Oui. Tu dis que c'est une quête personnelle. On l'entendait dans la bande-annonce avec des effets sonores de papier et de stylo. Dis-moi, c'était quoi ta quête? Qu'est-ce que tu voulais démontrer avec ce documentaire?
D'abord, je suis partie de ma propre expérience. La lecture, pour moi, ça a toujours été une soupape, pas qu'un divertissement. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un travail, c'est devenu un travail avec les années. Mais j'y ai trouvé des guides. Je vois que ça sonne psychopop, là, mais j'y ai vraiment trouvé souvent des conseillères, parce que je lis beaucoup de femmes. C'est des philosophes aussi. J'ai trouvé des pistes pour améliorer des périodes de ma vie, par exemple, où c'était un petit peu plus sombre, un peu plus
ténébreux. Mais jeune, tu disais de la philosophie?
Non, c'est ça. Alors ça, c'était plus tard. Mais la philosophie, c'est-à-dire que les écrivains, bien qu'ils n'écrivent pas de philosophie, sont en soi des philosophes, parfois dans ce qu'ils nous donnent à lire. Mais plus jeune, c'est que à 14 ans, j'ai fait une dépression. J'avais toujours été quand même une lectrice assez assidue. Je suis venue au monde avec cette passion-là. En tout cas, ça s'est développé parce que chez nous, on lisait beaucoup puis j'ai aimé ça. Mais à 14 ans, j'ai cessé pendant un certain moment d'aller à l'école à cause de ma dépression. Donc, ce qui me restait à faire, à part rester au lit, c'était de lire des livres. Et j'ai pour la première fois vécu cette espèce d'étincelle où, OK, je ne suis pas seule dans les ténèbres parce que celles et ceux que je lisais aussi ont vécu des tourments et ils mettaient surtout des mots sur les torpeurs, sur des désarrois, sur des émotions que je ressentais, mais je pouvais pas, moi, mettre des mots là-dessus encore. J'étais trop jeune, mais eux ont su en mettre et par la suite, j'y suis retournée chaque fois vers les écrivains pour me resituer, pour me repositionner dans la vie. Parfois, la croisée des chemins, quand j'ai des décisions à prendre, je retourne vers les auteurs. Et c'est pour ça que je pense que la lecture est une soupape et aide à mieux vivre.
Explique-moi quelque chose, Claudia. Tu as commencé, tu avais 14 ans là, quand tu es tombée dans cette dépression, puis là, tu as découvert les livres, etc. Aujourd'hui, là, les enfants sont submergés d'écrans.
Ouais, je
peuvent
sais.
Se noyer dans les écrans. Tu le sais, t'en as des jeunes enfants.
Je me bats à chaque jour.
Mais comment on intéresse, en 2024, des jeunes à lire qui peut être une activité mauditement plate à côté
je
de TikTok?
Sais, ça demande un effort. C'est des efforts, lire. Alors, comment? C'est d'être des déclencheurs de passion. C'est de donner, à un moment donné, à un jeune qui cherche quelque chose, qui est peut-être en proie lui-même à des démons, le livre qui va peut-être, par miracle, puis on se croise les doigts, l'ouvrir vers d'autres lectures.
Est-ce que OK, je reviens là-dessus. Moi, je prends, par exemple, j'ai une nièce qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, qui est beaucoup devant les écrans. Elle a commencé à lire c'est des livres, une série de livres.
Les mangas?
Oui, exactement.
Ben oui, les mangas, c'est une belle porte d'ouverture.
Est-ce que tous les livres sont bons pour intéresser à la lecture?
Il n'y a pas de mauvais livres, là.
Parce que là, elle est passionnée de ça. Moi, je trouve ça fun. Je me disais.
Puis, à un moment donné, peut-être que, OK, je lis un manga. Ah, mais peut-être qu'il y a un autre livre, un peu similaire, écrit par un autre auteur qui va être une bonne suite et qui pourrait l'amener vers d'autres titres. C'est pas nécessaire, mais ça peut être une belle suggestion aussi d'aller voir ailleurs, d'ouvrir d'autres portes.
Tu sais, je me ramène là, quand j'étais ticu. Là. J'allais à la bibliothèque, j'empruntais des livres.
Tu lisais, toi. Hein?
Mais je lisais
c'était
beaucoup.
C'était le fun, faire ça à l'époque, non?
Oui, mais c'était pas, tu sais, je me disais pas, ah, je vais m'éveiller. Je voulais juste être distrait.
On s'en rend pas compte, mais non.
Tu comprends? Les films d'après-midi à TVA en 86, là, c'était un peu plate. Oui.